Une heure en France. Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour et bienvenue à tous au Congrès des maires où nous sommes au Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier, c'est le rendez-vous annuel des maires et des présidents d'intercommunalités de France.
Oh, vous l'avez bien dit, bravo.
Oui, trois jours à Paris où il est question de décentralisation, de transfert de compétences et de politique avant les élections municipales du mois de mars prochain. Ouais. Ça, c'est le programme des élus.
Oui, mais nous, dans Une Heure en France, on va vous parler du quotidien des maires, de la place des femmes, des communes qui ont changé de taille et de nom, et puis du patrimoine avec quatre maires.
Un maire récompensé par les rubans du patrimoine dans le Puy-de-Dôme, une maire du Finistère, un maire qui jette l'éponge et un maire qui voit la population de sa commune multipliée après une fusion.
France Bleu et les maires, les élus les plus populaires auprès des Français à 63% selon la dernière enquête Odoxa pour France Bleu et la presse régionale.
Des maires et des initiatives dans Une Heure en France et un invité surprise en fin d'émission qui ne l'est pas tant que ça puisqu'il s'agit de Tony Estanguet, le patron des Jeux Paris 2024 qui veut concerner tous les territoires avec terre de jeu.
Et on commence tout de suite avec l'actu du jour, présentée par Faustine Moheran.
Bonjour Faustine.
Bonjour à tous.
Le plan d'urgence pour les hôpitaux a été dévoilé ce matin.
Et oui, par Édouard Philippe et Agnès Buzyn, le Premier ministre et la ministre de la Santé, chargés donc de répondre à la colère des personnels soignants en grève depuis 8 mois pour certains. Alors concrètement, Axel Labbé, ce plan, ça donne quoi ?
Eh bien, c'est une grève pour dénoncer le manque de moyens. Le gouvernement veut donc leur en donner en débloquant 1,5 milliard d'euros sur 3 ans et 400 millions d'euros dès les prochains jours. De quoi redonner du pouvoir d'achat aux soignants. Par exemple, avec cette prime de 800 euros net par an pour les infirmiers et aides-soignants vivant à Paris et dans la petite couronne. Pour ceux qui gagnent moins de 1900 euros par mois, cela les aidera à se loger. Une prime de 300 euros aussi par an pourra être attribuée aux soignants les plus investis dans leur travail. Elle sera distribuée directement par les chefs de service. Édouard Philippe veut redonner du pouvoir aux chefs de pôle, renforcer la place des médecins dans les instances dirigeantes et simplifier la gestion du quotidien en allégeant les charges administratives et les méthodes de recrutement. Enfin, l'État va reprendre 10 milliards d'euros de dettes sur 3 ans pour aider les hôpitaux à retrouver un équilibre financier et donc leur permettre d'investir dans les travaux de rénovation, la modernisation des équipements. Avec ces mesures, le gouvernement promet aux professionnels de santé une amélioration de leurs conditions de travail dans les prochains mois et espère que cela va suffire cette fois à apaiser leur colère.
Et tout le détail de ce plan pour les hôpitaux, évidemment, à retrouver sur francebleu.fr. Merci beaucoup Axel Labbé. Autre plan dévoilé ce matin, le plan de lutte contre les violences aux enfants. Emmanuel Macron donne 6 mois aux opérateurs internet pour mettre en place le contrôle parental par défaut et il promet désormais 50 prisons pour ceux qui regardent des images pédopornographiques en ligne. C'est la journée internationale et le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant aujourd'hui. Alerte à la listeria dans de la langue de porc dans le Loiret. L'usine Tradival de Fleury-les-Aubrais près d'Orléans retire et rappelle tous ces pots de langue de porc en gelée. 8 consommateurs sont tombés malades et ont contracté la listériose un peu partout dans le pays. Attention donc si vous en avez acheté ou mangé vous aussi et allez voir votre médecin surtout tout de suite si vous avez de la fièvre. Au rayon déjeuner justement, posez vite ce jambon trop rose pour vous que vous vous apprêtiez à manger peut-être avec vos pâtes ou dans votre sandwich de midi, il est sûrement plein de nitrites et ce n'est pas bon pour vous. Deux associations, Foodwatch et la Ligue contre le cancer et une application mobile Yuka lancent une pétition pour l'interdire dans les rayons des supermarchés. Marion Barjaki.
Les nitrites, ce sont les fameux E249 et E250 que vous pouvez trouver sur la liste des ingrédients. Ce sont eux qui donnent la couleur rose au jambon, censé vous rassurer sur la qualité du produit. Pourtant, le jambon, au départ, c'est blanc. Ces substances sont de plus en plus controversées, soupçonnées de développer des cancers, plus de 4000 par an, surtout au niveau colorectal, d'après Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Alors, l'industrie peut-elle se passer des nitrites ? Sans aucun doute, certains en font déjà un argument de vente. On le voit en passant dans les rayons, vous pouvez choisir du jambon zéro nitrite ou du jambon sans sel nitrité. Il faut juste consommer le produit plus rapidement, dans les 24 heures en général, et donc changer nos habitudes.
Objectif zéro nitrite dans mon jambon, une pétition et des informations à lire sur notre site internet, là aussi francebleu.fr. Plusieurs milliers de foyers de la Drôme, toujours sans électricité ce midi, 6 jours maintenant après les chutes de neige de la fin de semaine dernière. Ils sont 7000 dans le noir et le froid d'après la préfecture. La préfecture, car Enedis ne communique plus aucun chiffre depuis 2 jours, à part le nombre de techniciens toujours mobilisés, 1000 sur le terrain d'après le gestionnaire de réseau qui n'annonce pas de retour. retour à la normale. En parlant de la neige, pardon d'avance si vous aviez enfin réussi à vous enlever son fameux délivré, libéré de la tête, mais elle revient. La Reine des Neiges 2 sort aujourd'hui au cinéma, 6 ans après le premier film sur les aventures d'Elsa qui avait fait plus de 5 millions d'entrées en 2013 au cinéma. Et pour vous remettre dans le bain peut-être avant le film numéro 2, allez donc retrouver notre quiz hein, Reine des Neiges sur l'appli France Bleu. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre, très probable adversaire des Bleus en phase finale de l'Euro 2020. La France devrait être mise dans le deuxième chapeau du tirage au sort fin novembre et hériter donc d'une poule de la mort hein, malgré notre première place dans notre groupe aux éliminatoires. Vous êtes 3 278 000 auditeurs enfin hein, chaque jour avec nous sur France Bleu. Les audiences de septembre-octobre sont tombées ce matin. Merci donc car grâce à vous, France Bleu fait 6% des audiences cumulées et surtout 26 millions de visites par mois sur notre site francebleu.fr et notre appli. Merci donc de votre fidélité et bravo aussi à nos confrères de France Inter, radio du groupe Radio France, toujours première radio de France aujourd'hui. Côté météo, le soleil va réussir à percer globalement sur la moitié nord du pays cet après-midi. Dans le sud, soleil pour tous, sauf sur les Alpes et la frontière italienne. La grisaille persiste et même la pluie hein, risque de tomber. Les températures ne montent pas beaucoup, moins de 10 degrés cet après-midi sur la moitié nord, pas plus de 14 sur la moitié sud. 13h06 sur France Bleu, c'est l'heure de retrouver Denis Farou et Frédéric Le Ternier en direct du Parc des Expositions de Versailles à Paris pour une heure en France. Vous suivez, Denis, Frédéric, le Congrès des maires.
Ah, ça fait bizarre, on est entouré de maires, pour ne rien vous cacher.
Oui, on va continuer avec cette spéciale du Nord en France, vous l'avez dit Faustine, en direct de la Porte de Versailles à Paris. De nombreux maires seront nos invités pour parler de sujets concernant, on l'espère, la parité, entre autres, le patrimoine, comme on aime en parler dans une heure en France. Vous restez avec nous, notre premier invité, il est déjà installé, et tiens, c'est un maire.
francebleu.fr
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel.
Avec ces deux accidents sur l'A86 à hauteur de Fresnes, le premier sur la chaussée intérieure vient d'être dégagé. C'était entre un poids lourd et une voiture. Ça roule donc un peu mieux que tout à l'heure, plus que un quart d'heure entre le marché de Rungis et Fresnes. Le deuxième, c'est exactement au même niveau, mais sur la chaussée opposée. Trois voitures sont entrées en collision il y a un peu moins d'une heure. La voie de gauche reste fermée. Vous êtes fortement ralenti depuis Châtenay-Malabry. Et puis enfin, vous roulez au pas sur le périphérique extérieur entre Porte de Saint-Cloud et Porte de Gentilly. En cause, un poids lourd accidenté, c'est au tout début de la 6A en allant vers la province. La voie de droite est fermée.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Et nous sommes toujours en direct du Congrès des maires de France au Palais des Expositions, Porte de Versailles à Paris. Et nous sommes vraiment ravis de commencer avec le patrimoine. Il faut dire que c'est l'ADN du Nord en France.
Ça, c'est vrai.
Avant de parler parité, regroupement de communes ou encore municipal.
La ville de Châtel-Guyon, dans le Puy-de-Dôme, a reçu cette année le prix spécial dynamisme territorial des rubans du patrimoine pour la réhabilitation de son théâtre. Le maire de Châtel-Guyon est avec nous. Bonjour Frédéric Bonichon.
Bonjour.
Ce théâtre à l'italienne date de 1901. Il était fermé, il ne fonctionnait plus dans votre petite ville thermale.
Oui, les théâtres, ça a été finalement les premiers zéniths au début du XXe siècle. Et c'était les lieux où se produisaient les artistes, les vedettes de l'époque. Et ces théâtres ont souffert, comme beaucoup, de normes incendie, de normes de sécurité, ou parfois d'effondrement. Le nôtre était fermé depuis 14 ans et on avait fait le pari de le réouvrir parce que, d'abord, il faisait partie du patrimoine, il faisait partie du vécu commun des Châtel-Guyonnais, en tout cas les plus anciens, qui avaient pu jouer ou venir au spectacle de fin d'année de leur école il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Et on avait pris le pari de le réhabiliter avec l'aide de Jacques Maillot, qui est aussi le directeur du Théâtre des Deux Ânes, qui est originaire de chez nous.
Oui, c'est vrai, il est né juste à côté, à Rion.
Exactement, ouais. Il est né à Rion et il habite juste à côté.
Monsieur le maire, dites-nous, c'est un enjeu culturel, évidemment, la rénovation de ce théâtre, mais aussi économique.
C'est un enjeu économique, c'est un enjeu, d'abord c'est une très belle réussite, plus de 50 000 entrées payantes depuis 5 ans, une trentaine de dates chaque année, à chaque fois, quand vous avez 200, 300, 400 personnes qui viennent au spectacle dans une ville, ils viennent avant ou après, au bar, au restaurant.
Et... vous organisez aussi des congrès, des séminaires.
On organise aussi des congrès et des séminaires.
Hier soir, il y avait Pierre Arditi, et à la fin du mois, il y aura Sophia Aram. Et quand vous parliez de stars de l'époque, Dalida, Jacques Brel, Yves Montand, Daniel Darieux sont passés À Châtel-Guyon.
Ferré, Ferra, Dalida, etc. Effectivement, tout cela passé et passe encore. Et on a eu la chance d'avoir Juliette Gréco sur son avant-dernier concert il y a 3 ans.
Alors, cette récompense, les rubans du patrimoine, ça représente quoi ? C'est beaucoup de fierté ?
C'est beaucoup de fierté partagée avec les équipes. D'abord parce que c'était un projet, ce projet il a été au bout, donc on l'avait dit et on l'a fait. Et puis c'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine où les murs rient, applaudissent, chantent et ça c'est important. C'est pas juste un mur ou une église qu'on a rénovée qui serait pas utilisée, c'est vraiment utilisé plusieurs fois par an par les
Et vous avez mis combien de temps pour réunir plus de 4 millions d'euros ? On sait que quand Notre-Dame brûle, ça va assez vite avec les mécènes qui arrivent très rapidement, mais pour Châtel-Guyon ?
Alors nous on a eu d'abord de très bonnes relations avec l'ABF et on a employé aucun langage fleuri vis-à-vis de l'architecte des bâtiments de France et on a beaucoup travaillé avec eux pour d'abord trouver le bon projet. Évidemment, il faut faire des compromis dans ces cas-là entre rénover à l'identique et se mettre aux normes. Il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas les mêmes normes il y a 100 ans, donc il fallait faire des compromis. Et combien on a mis de temps ? On a mis 3 ans pour boucler le plan de financement et 18 mois pour faire les travaux.
Vous avez rénové et vous avez été récompensé pour un théâtre à l'italienne à Châtel-Guyon. Il se trouve que la maire qui va vous succéder a également un théâtre à l'italienne dans sa ville. C'est la maire de Morlaix. Bonjour Agnès Lebrun.
Bonjour.
Voilà. Est-ce qu'il a besoin d'être rénové, votre théâtre à l'italienne, à vous ?
Il l'a été il y a une dizaine d'années et je peux dire que c'est un très bon investissement pour l'avenir.
Et en tant que maire, on dit mairesse, on évite le terme.
On dit ce qu'on veut.
Vous préférez
Mais vous, vous dites quoi ?
Moi, je dis maire.
D'accord. Alors, en tant que maire, est-ce que voilà, vous rejoignez Frédéric Bonichon sur l'importance de ce patrimoine culturel, de ce patrimoine qu'il faut rénover, qu'il faut remettre en
Bien
service ?
Sûr. Alors, la première chose, c'est que le patrimoine, si on ne le rénove pas, il faut prendre la responsabilité de le laisser s'écrouler devant nos yeux, c'est-à-dire un pan de l'histoire de la ville et de l'histoire de la ville s'écrouler. Mais c'est surtout que c'est un pari sur l'avenir. En vérité, certains voudraient laisser penser que préserver le patrimoine, c'est créer une sorte de décor de cinéma, mais en réalité, c'est préparer l'avenir. C'est ouvrir une nouvelle page de l'avenir pour pouvoir justement, par exemple, dans le tas de Châtel-Guyon, que la population puisse réinvestir un outil qui est au départ prévu pour proposer des activités culturelles. Donc c'est absolument essentiel. Mm-hmm. Et quand on a dit ça, on n'a toujours pas parlé de désenclavement culturel des territoires, ouais. Ce qui est pourtant essentiel.
Vous êtes 35 000 en France, vous vous connaissiez tous les deux ?
J'avais la même question, Denis.
Pas du tout. Alors voilà, les présentations sont faites. Et merci à Frédéric Bonichon, maire de Châtel-Guyon, récompensé par les rubans du patrimoine du prix spécial Dynamisme Territorial.
Et restez avec nous, Agnès Lebrun est à nos côtés. On va parler parité ensemble, on a beaucoup de questions à vous poser. Une heure en France spéciale Congrès des maires, c'est jusqu'à 14h sur France Bleu.
You might know of the original sin. You might know how with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. And wake up to a bright. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy.
succès, vous les avez sans doute reconnus, Original Sin sur France Bleu à 13h17 en direct de la porte de Versailles à Paris pour le Congrès des maires.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farroux sur France Bleu.
Et nous recevons 4 maires ce midi et 3 sont des hommes. Il faut dire que 17% seulement des maires sont des femmes en France. Elles sont 40% dans les conseils municipaux et 7,5%, ça fait beaucoup de chiffres tout ça, seulement à la tête de structures intercommunales.
Oui, mais on voit que ça fait pas beaucoup de femmes.
Non, aussi. Voilà les chiffres et toutes les questions donc qui s'y rapportent.
La loi sur la parité s'applique à toutes les communes de plus de 1000 habitants, mais les communes de moins de 1000 habitants représentent les 2/3 de toutes les communes françaises. Mmh. La maire de Morlaix dans le Finistère est avec nous. Bonjour, rebonjour Agnès Lebrun.
Bonjour.
Est-ce qu'il faudrait changer la loi pour les petites communes pour arriver un jour à cette parité ou pas ?
La loi est ce qu'elle est et elle doit être une amorce, mais vous comprendrez bien que pour une femme d'être élue avec le stigmate sur son front de « je suis élue parce que je suis une femme », c'est pas les meilleurs débuts qu'on puisse imaginer en politique ou ailleurs. Donc ça veut dire que, bien sûr, il faut forcer l'entrée dans les collectivités des femmes. Et pour autant, il ne faut pas oublier que le premier critère, ça doit être la compétence.
Est-ce que vous pensez, Madame le maire, que la France est un pays en retard ?
Bien sûr, la France est un pays en retard. Vous comparez la France avec la Tunisie, par exemple. Eh bien, en Tunisie, aux dernières élections municipales, il y a davantage de femmes qui ont été élues maires qu'en France.
Alors incroyable. Il faut changer.
Incroyable, oui. Oui. Je vous confirme.
Changer ou pas la loi, je ne sais pas. Changer les mentalités, très certainement. On imagine que vous ne ressentez plus de sexisme désormais parce que vous êtes la patronne.
Oui, enfin, ça ne protège de rien. Et surtout pas des comportements anciens, insidieux et rampants parfois. C'est-à-dire que, finalement, la question est de savoir s'il vaut mieux avoir un sexiste franc et massif en face de soi ou une sexiste parce que les hommes n'ont pas l'apanage du sexisme ou bien alors des comportements sexistes plus à leur corps défendant finalement de certains ou de certaines qui ne s'en rendent même pas compte. Quand j'ai été élue, le portrait qui a été dressé était un portrait qui parlait, les deux premières pages parlaient de mon tailleur et puis le titre évidemment c'était une main de fer dans un gant de velours.
Oui.
Et je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce qu'on ne pense pas que parce que vous êtes une femme, vous allez être plus sensible à des sujets tels que l'éducation, tout ce qui est le social ?
Probablement. Alors après, ça, c'est une question de tempérament parce que, surtout, ce qui est notable, mais d'autres l'ont dit évidemment avant moi, c'est que lorsque vous êtes une femme et que donc vous êtes élue et donc que vous avez le pouvoir et la nécessité de l'exercer, surtout, c'est-à-dire que vous êtes représentant du suffrage universel, il faut décider, il faut dire non. Et lorsque vous dites non, vous êtes autoritariste, là où un homme est autoritaire. Lorsque vous devez un peu hausser la voix parce que les choses n'avancent pas exactement comme vous le souhaitez, vous devenez vite hystérique aux yeux de beaucoup, ouais. Etc., etc. La panoplie est assez complète, je dois dire. Après, évidemment, quand on fait ses preuves, enfin, moi, ce qui me surprend, si je puis me permettre, c'est qu'il y a... C'est pas forcément la génération des sexagénaires hein, qui est la plus sexiste. On pourrait penser que le règne de la ventripotence est toujours très très présente et vous traite mal, mais il y a des trentenaires absolument insupportables et très très mal élevés.
C'est pas réjouissant pour la suite. Ça.
Est-ce que ça vous choque du coup qu'on vous invite vous pour parler de la parité ? En l'occurrence, on a 4 invités, 3 hommes, une femme, et c'est à vous qu'on pose la question.
Non, rien me choque. Dès qu'il y a du dialogue, c'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est quand le dialogue disparaît. Moi, au contraire, je suis très heureuse de parler de parité pour dire que je crois qu'en effet, les lois sont là pour amorcer des changements de mentalité, comme vous l'avez dit, mais qu'ensuite, il faut s'emparer du sujet, s'approprier le sujet, être pédagogue, et puis apprendre dans l'éducation, en formation initiale. Enfin, c'est vraiment la formation initiale qui fait qu'à un moment donné, on acceptera que les garçons et les filles, c'est pas pareil, mais que les garçons et les filles peuvent accéder au même poste et dans des conditions qui sont, encore une fois, bien trop souvent complètement décalé. Quand on regarde la différence de non pas d'indemnité, puisque les indemnités sont les mêmes, mais les indemnités ne sont pas des salaires. La différence de salaire, c'est absolument épouvantable. Enfin,
Agnès Lebrun, vous avez quitté votre parti, les Républicains, il y a quelques mois. Est-ce que c'était en rapport avec ce que vous appelez les postes trustés par les hommes ?
Dans mon communiqué de presse, on pouvait lire un peu entre les lignes que c'était un petit peu le sujet.
Ah oui, quand même.
Il vous semblait bien.
Hein.
Il vous semblait bien.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ?
De continuer
aussi ce combat au niveau de l'égalité.
Oui, alors ce sont des combats pacifiques, si je puis dire. Hein. Il ne faut pas, bien sûr, monter au feu comme ça pour rien. Mais en revanche, il faut vraiment que ce soit ancré dans les esprits, sinon on n'avancera pas.
Alors, entre les lignes de la question de Frédéric, on a cru comprendre que vous alliez vous représenter en mars.
C'était une bonne lecture.
On avait bien compris, encore une fois.
Merci beaucoup de votre
venue. Merci à vous.
Merci. Bonne journée et bon congrès.
Merci.
Et on joue maintenant tout de suite. On joue pour une clé USB France Bleu. J'ai une question en rapport avec ce que l'on vient de dire avec la mère de Morlaix qui était à nos côtés dans cette spéciale du Nord en France. Dites-nous quel est le pourcentage des femmes qui sont mères en France aujourd'hui. Est-ce que c'est 17% ou est-ce que c'est 25%? Si vous avez la bonne réponse, vous nous appelez au 0810 055 056. 0810 055 056. Quel est le pourcentage de femmes mères en France aujourd'hui? 17% ou 25%?
On l'a dit.
C'est même moi qui l'ai dit. Avec toute une succession de chiffres. Et puis on continue en musique avec Maëlle et Toutes les machines ont un cœur sur France Bleu. l'adore sur France Bleu. Elle a gagné The Voice, Maëlle. Déjà, on l'aime beaucoup dans Toutes les machines ont un cœur, mais je ne sais pas si vous l'avez vu dans ce duo de The Voice, Denis, où elle chantait du Sting, le titre Fragile, c'était exceptionnel.
Non, mais vous me l'avez raconté une dizaine de fois, j'ai l'impression
j'arrête
de l'avoir
alors,
vu.
Écoutez, hein, si je vous embête surtout.
Pas du tout.
Une heure en France, en direct de la Porte de Versailles, à Paris pour le congrès, c'est le 102e congrès. On reçoit des maires, évidemment, aujourd'hui, pour parler de différents sujets, mais on joue aussi un petit peu. Et on accueille Christophe qui est avec nous, qui nous a appelé. Bonjour Christophe, bienvenue.
Bonjour.
Où êtes-vous Christophe?
En Alsace, la région Grand Est.
Très bien, où ça en Alsace? C'est grand.
Secteur de la Vencelle, Célestat, centre Alsace. Quoi.
Ok, voilà. Et est-ce que du coup ça vous intéresse cette émission sur les maires? Vous vous sentez concerné?
Et c'est... là il vous répond pas du tout.
Bah oui, c'est un risque à prendre.
Hein. Non, si Christophe. Ça m'intéresse, j'écoute France Bleu tous les jours, donc tous les sujets sont très bien, j'apprécie.
Bah vous êtes gentil, merci Christophe. Je vous demandais le pourcentage de femmes mères en France aujourd'hui. Ça fait un petit peu peur, c'est 17 ou 25%?
17%.
Eh oui, malheureusement, c'est bien ça, c'est la bonne réponse, c'est 17%. On a parlé parité il y a quelques instants dans Une Heure en France, dans cette spéciale congrès des mères. C'est des chiffres qui font peur. Tenez, Christophe, j'ose aussi vous poser la question, vous avez une voix jeune. Est-ce que vous, ça vous choque, ce chiffre?
Un peu, oui, quand même, parce que de nos jours, on dit parité tout le temps, mais... C'est très peu, en fait.
Donc, c'est pas appliqué.
Moi, j'ai la chance, ma commune, c'est une femme qui est mère. Donc, voilà.
Ah, très bien. Et vous ne sentez pas la différence?
Non, pas du tout. Non.
Bon, non. Très bien. Bon, mais voilà. Écoutez, merci de votre témoignage. On vous envoie, bien sûr, votre clé USB France Bleu. Et on vous souhaite une bonne route, parce que j'ai l'impression que vous êtes au volant, là, non?
Oui, je suis chauffeur routier dans le TP, donc voilà.
Très bien. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre métier, ou c'est encore une idée fausse qu'on a?
Non, c'est une idée fausse. Nous, dans notre région, il y a énormément de femmes qui conduisent aussi bien des camions pour le transport que dans le TP.
Eh bien, on les salue toutes. Eh bien, c'est tant mieux. On les salue toutes et on vous fait une grosse bise. Christophe, merci beaucoup d'avoir joué avec nous.
Merci bien.
Bonne journée. À bientôt,
merci
Christophe.
Vraiment, au revoir.
Au revoir. Et nous, on continue hein, cette spéciale d'une heure en France. Restez bien avec nous. On va parler aussi des maires qui refusent de se représenter. On saura pourquoi. Puis on va parler de plusieurs communes qui se regroupent. C'est bien ça?
Oui, c'est ça, les fusions de communes. Juste pour vous dire qu'on est installé juste à côté de l'immense auditorium ici au Parc des Expos, là où Emmanuel Macron s'est exprimé hier, là où Édouard Philippe va s'exprimer demain.
Vous en savez des choses. Raphaël, dans quelques instants avec Caravane et on revient juste après.
France Bleu. France Bleu présente La Nuit de la Bretagne, le 7 mars 2020 à Paris La Défense Arena. Chant, musique et danse, 150 artistes réunis sur scène pour un show exceptionnel dans la plus grande salle d'Europe. Avec le Bagad de l'Anbiwe, Denez, Dan Arbraz, Alan Stivell, Gilles Servat, l'Orchestre Symphonique de Bretagne et bien d'autres surprises. Proposé par le Télégramme, La Nuit de la Bretagne, le 7 mars 2020 à Paris La Défense Arena. Un événement France Bleu avec France 3. Toutes les infos sur francebleu.fr.
C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle « Ta-ta-ta-da-da ». Catégorie Assurance de biens, études BVA Group, visio OCI, mai à juillet 2019, plus d'infos sur escda.fr.
francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez. Comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu aime Florent Pagny.
Si une chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire, peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut. Alors il faut chanter.
Si une chanson, Florent Pagny, un coup de cœur France Bleu.
Mmh. Mmh.
les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane, mais nous partons. Allez, viens. Bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens.
La caravane de Raphaël qui nous propose de faire un petit tour. Bah oui, venez, en étant en direct du Congrès des maires jusqu'à 14h. Rejoignez-nous sur France Bleu.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et nous sommes maintenant à 4 mois du scrutin des municipales. Certains vont rempiler, du moins ils vont se représenter, d'autres vont jeter l'éponge. Et c'est le cas de notre invité.
Bonjour Jean-Claude Billot.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le maire de Ferrières, 500 habitants près d'Amiens, président des maires de la Somme. Et en principe, c'est votre dernier congrès des maires puisque vous arrêtez. Sauf si vous faites comme Jean Lassalle, qui est omniprésent, qui n'est plus maire mais qui est toujours là.
Alors je pense que effectivement le congrès me verra peut-être encore quelques années si la santé est encore là. Mais parce que c'est vrai qu'ici on y trouve un peu la convivialité, on retrouve toujours les vieux amis.
Et pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas vous représenter alors ?
Bien écoutez, j'en suis à mon 7e mandat. J'ai aujourd'hui 73 ans. Si je rempile l'an prochain, ça m'amène à 80 ans. Je ne trouve pas ça raisonnable. Si aujourd'hui je suis en bonne santé et à peu près en forme, je ne sais pas ce que demain me réserve. Donc je pense que c'est le moment de passer la main et de laisser un jeune prendre ma place.
Est-ce que ce dernier mandat a été le plus difficile, puisque vous êtes élu depuis plus de 40 ans, donc vous pouvez comparer ?
Oui, ça a été vraiment le mandat le plus compliqué et le plus difficile que j'ai eu de l'ensemble de mes mandats. Alors pour plusieurs raisons. Il y a d'abord eu la problématique de baisse des dotations de l'État, qui a fait que tous les programmes que nous avions prévus, on n'a pas pu les tenir. Donc vis-à-vis de nos administrés, c'est ennuyeux. La deuxième chose, c'est toute une campagne de calomnie qui a été lancée sur les maires. Sur le thème « balance ton porc », on a dit « balance ton maire ». Ça aussi, ça nous est resté en travers de la gorge. Et puis, derrière ça, on a aussi, là maintenant, et on s'en rend compte de plus en plus, l'incivilité et les problèmes que les maires rencontrent, c'est-à-dire l'agressivité.
Monsieur le maire, vous parlez des jeunes à qui il faut laisser la place. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont envie de se présenter aujourd'hui ?
Bien écoutez, si on leur en donne la possibilité, oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il faut que qu'on échafaude un statut de l'élu, vraiment, qui soit en concordance avec le besoin de la société. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouvera pas de jeunes pouvant être à la fois maire et travailler. La mission de maire aujourd'hui demande beaucoup plus qu'avant. Je me souviens, dans mes premiers mandats, je passais en gros 4 à 5 heures par semaine dans ma commune. Aujourd'hui, c'est 45, 50, 60 heures.
Mais donc ça veut dire les payer plus correctement ?
Ça veut dire pas seulement les payer, ça veut dire simplement trouver une formule qui leur permette à la fois de quitter l'emploi, mais de le retrouver derrière. Mmh. C'est ça surtout.
On entend les maires que l'on rencontre ici dans les allées ou à ce micro sur France Bleu se plaindre, et le plus souvent à juste raison. On imagine bien que c'est pas facile de se retrouver en première ligne quand l'État ne suit pas. Qu'est-ce qui est plaisant dans le rôle de maire finalement aujourd'hui ?
Alors ce qui est plaisant dans le rôle de maire, c'est la sensation de mission accomplie. La sensation d'avoir rempli son devoir. Quand on trouve un emploi, par exemple, pour un jeune, quand on aide une famille en difficulté et qu'on arrive à les remettre à l'eau, quand on sort un jeune de la drogue, etc., tout ça, ce sont des choses qui donnent satisfaction.
Et les mariages, c'est plaisant, les mariages ?
Ah, un mariage, oui. C'est l'acte le plus plaisant qu'un maire puisse faire.
C'est vrai ?
C'est très valorisant.
Ouais. Et quel est l'acte le plus pénible, pardon, pour cette question ?
Le plus pénible, c'est d'aller annoncer à une famille que l'enfant est décédé en montagne, en faisant une randonnée de montagne, et qu'il a fait une chute, et qu'on vous informe à 3h du matin d'aller prévenir les parents immédiatement et de demander aux parents de rappeler la gendarmerie du lieu.
Et ça aussi, c'est le rôle du maire.
Ça, c'est pénible.
Vous comprenez ces coups de blues que l'on peut entendre ici ou là. Jean-Marc Vasse, vous êtes le maire de Terre de Caux et vous êtes l'invité suivant.
Oui, bonjour. Je comprends.
Ah. On vous entend, là, allez-y.
Bonjour, je comprends tout à fait ce que dit mon collègue Jean-Claude Millot. Pour partager effectivement la fonction depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mandats, je partage complètement à la fois les joies et aussi la tristesse d'un certain nombre d'événements.
Restez avec nous, on va poursuivre.
Le lien est fait entre les deux, on remercie Jean-Paul Billot, puis on vous dit peut-être à l'année prochaine, parce qu'on a compris que vous n'alliez pas raccrocher comme ça, même si vous ne vous représentez
pas. C'est-à-dire que je ne serai plus maire, mais le salon, je pense que j'y viendrai.
Vous viendrez au congrès.
Vous êtes là depuis 10 minutes et vous faites des gestes un petit peu partout, j'ai l'impression.
Salut tout le monde. On y connaît tout le monde.
Vous connaissez quelques personnes.
Merci monsieur le maire de nous avoir accordé quelques instants. Bon congrès à vous, à bientôt. On joue à nouveau, on joue pour un très beau casque France Bleu, il est comment ?
Bluetooth.
Mais c'est ça. Dites-nous, combien la France compte-t-elle de communes ? C'est pas une question facile, mais j'ai des propositions.
Ah ben moi, je me rappelle très bien ce que j'ai appris à l'école primaire, donc je vais répéter.
Mais ça a changé, justement. Ah. C'est en lien avec ce dont va nous parler notre prochaine invitée, parce que certaines communes se sont rapprochées. Donc, alors, le chiffre officiel, c'est 34 968 ou 44 968 ? Voilà, si vous avez la bonne réponse, 0810 055 056. Il y a un beau cadeau France Bleu à la clé, donc restez avec nous. Il y a de la musique également, et c'est Madonna qui arrive tout de suite. And you can dance. We'll be right back. Madonna sur France Bleu, vous avez reconnu sa voix évidemment, c'était Into the Groove. On est dans le groove un petit peu à ce congrès des maires. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis, Porte de Versailles?
Vous trouvez que ça groove?
Ça groove un peu, il y a du monde quand même, il y a beaucoup de monde, il y a un auditorium. Nous on est dans un studio qui est dans les allées, on a quelques coucous de maires, ça fait plaisir et on reçoit maintenant notre quatrième invité. France Bleu. Mais avant, il y a Sylvain qui a joué avec nous. Bonjour Sylvain, où êtes-vous?
Bonjour Frédéric, je suis en Bourgogne.
Ah c'est ça, vous n'êtes pas au congrès des maires là, vous êtes en Bourgogne.
Oui, tout à fait.
Vous savez que c'est un peu grand la Bourgogne, hein. Vous êtes où précisément?
Moi je suis de Auxerre et là je suis du côté de Nevers.
Très bien.
Et pourquoi vous êtes du côté de Nevers? C'est pour le boulot?
Pour le boulot, tout à fait, oui.
Vous faites quoi dans la vie, Sylvain, si je peux me permettre?
Je suis technicien itinérant, je me déplace pour aller réparer des machines chez les clients.
D'accord, beaucoup de routes. Et vous, alors, est-ce que vous avez un bon rapport avec votre maire? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous lui parlez? Comment ça se passe au quotidien?
Pas beaucoup de contacts, mais c'est vrai que l'on a pas mal de petites choses qui sont faites pour partager les actualités de la commune, des petits prospectus mensuels qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, qui nous informe de tout ce qui se passe dans la commune, des choses comme ça. Non, on est pas mal pour ça.
Bon, c'est bien de vous entendre là-dessus. Et dites-nous combien la France compte de communes, selon vous? C'est 34 968 ou 44 968?
34 968.
Oui, et vous savez que c'est récent, et on va en parler avec notre invité, du coup, qui est très au courant de tous ces
Parce qu'à l'école, on apprenait 36 000, hein. Enfin, je vous parle d'une certaine époque.
Ah, je vous regarde avec des yeux comme des soucoupes, parce que moi, je ne me souviens absolument pas de ça à l'école. En tout cas, c'est gagné, Sylvain, c'est pour vous, le casque audio Bluetooth France Bleu, on vous l'envoie et on fait une grosse bise par la même occasion.
Merci beaucoup, bonne fin de
Merci journée. Beaucoup Sylvain, belle journée à vous. Et donc on poursuit, hein, vous l'avez dit Denis, autrefois, hein, selon vous, à l'école on apprenait que la France comptait 36 000 communes, et bien ce n'est plus vrai, on vient de l'entendre avec Sylvain, depuis qu'il y a notamment des fusions de petites communes.
Au 1er janvier 2017, en Seine-Maritime, les 7 communes d'Auzouville, Auberbeau, Bermondville.
Bosque.
Non, ouais, mais en Pays de Caux, on dit
Beau. Auberbeau.
Ouais. Enfin, on dit comme on veut.
Confirme. Hein. Ok. Alors, pardon, je vous ai coupé. Lancez-vous.
Fauville-en-Caux, Ricardville, Sainte-Marguerite-sur-Fauville et Saint-Pierre-la-Vie sont fusionnés pour devenir Terre de Caux au nord-ouest de Rouen. Et le maire de Terre de Caux est avec nous. Bonjour, Jean-Marc Vasse.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on dit Terre de Caux 2 ans après, ou on habite toujours à Ricardville ou à Sainte-Marguerite?
Les lieux font les liens. Et depuis la nuit des temps, on s'est installé sur des endroits, on en a fait des villages, on en a fait des hameaux, on en a fait des bourgs, et ça a pris des administrations différentes. D'abord, ça a été administré sous l'Ancien Régime par les paroisses, et puis depuis 230 années maintenant, un peu plus, 232, le régime des communes. Qu'est-ce qu'une commune? C'est finalement la capacité à administrer les biens communs. Commune, commun. Les communs, c'était d'abord les voies de circulation. Et incontestablement, le sujet qui nous rassemble, c'est à la fois d'administrer les biens en commun, d'une part, et de respecter chacun des lieux.
Donc ?
Et donc, depuis 3 ans, on habite toujours à Bermondville, si on est dans le village de Bermondville, ou à Auzouville-Auberbeau, ou à Fauville. Mais ensemble, on partage nos communs.
Ça fait combien d'habitants au total, ces 7 communes regroupées ?
4200 habitants.
Que sont devenus les maires des communes ?
Alors, le régime de la commune nouvelle permet à ce qu'il y ait des maires délégués. Mmh. C'est un mot un peu technocratique. Il y a toujours le maire de Fauville, il y a toujours le maire d'Auzouville, le maire de Bento, etc. Donc, comme il y a des maires d'arrondissement à Paris, alors toutes choses égales par ailleurs, mais la nécessité de cette proximité est maintenue par le régime des communes nouvelles. Puis il y a le maire de Terre de Caux. Et moi, j'ai souhaité ne pas... J'étais le maire de Fauville. J'ai souhaité ne pas rester maire de Fauville et être maire de tous de la même manière. Mmh. Et non pas d'être un peu plus le maire de Fauville et puis aussi le maire de tout le monde.
Est-ce que tout le monde se sent impliqué? Tenez, cet exemple, il est parlant. Le nom, qui l'a choisi?
Alors, le nom, nous l'avons effectivement proposé à la concertation. Il y a eu un espèce de petit référendum. C'était pas le terme exact, puisque c'est une consultation. D'ailleurs, les enfants pouvaient aussi s'exprimer. Et ils avaient le choix, ils ont retenu Terre de Caux, d'ailleurs avec un S, pour montrer la pluralité de la commune nouvelle. C'est bien un ensemble que nous avons constitué. Et puis les terres en Pays de Caux, c'est important, parce que on a des terres fertiles. Et du coup, chacun a adopté assez facilement. tout en continuant à habiter son village ou son bourg.
Qu'est-ce que la nouvelle commune apporte aux habitants au quotidien ? Ça fait 2 ans que c'est en place. Qu'est-ce que ça change d'habiter l'une des anciennes communes ou d'habiter aujourd'hui dans ce regroupement qui s'appelle Terre de Caux ?
Notre objectif, c'est que les habitants ne trouvent pas de changement et encore moins désagréable. En revanche, ce que nous avons essayé de faire, c'est que une meilleure optimisation des moyens permet de rendre le service mieux ou différemment. On a, par exemple, constitué une charte de la commune nouvelle pour sa constitution, c'est ce que nous avons essayé de faire, et nous avons fixé des objectifs dans cette charte, notamment de permettre la scolarisation des 400 enfants, 400 écoliers, dans des installations scolaires dignes d'une petite ville de 4200 habitants, c'est l'équivalent. Nous avons développé un programme d'activité culturelle que nous n'avions pas. Nous avons généralisé le périscolaire. C'est-à-dire que l'amélioration de la gestion des communs permet de rendre le service au mieux.
L'union fait la force, en quelque sorte.
Tout à fait. Ouais.
Et les lieux font les liens, comme a dit Monsieur le maire tout à l'heure. Les nouvelles communes nées du rapprochement, de fusion, de convergence. Le maire de Terre de Caux,
Jean-Marc Vasse. Avec un S, alors.
Vasse. Ouais.
C'est vrai que j'aurais mis un X, hein, mais ouais. Donc c'est Terre de Caux avec un S. Merci d'être venu nous rendre visite sur le plateau du Nord en France, et c'était très parlant.
Et j'ajoute que 36 000 communes, un peu moins de 35 000 communes, vous avez donné le chiffre exact tout à l'heure.
Vous n'avez rien retenu.
Si, c'était très précis. À titre de comparaison, il y a 8 000 communes, grosso modo, en Italie, et 8 000 et quelques en Espagne.
Alors, 34 968,
voilà.
Notez-le. Merci beaucoup, monsieur le maire. On continue, Nord en France n'est pas terminé. Merci. En direct depuis la porte de Versailles à Paris pour ce congrès des maires. Alain Souchon, c'est son dernier titre qui arrive sur France Bleu. On sait que vous l'aimez, c'est presque.
À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face, elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche, et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste, un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains, te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. Presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Et voilà, c'était presque fini. C'était presque Alain Souchon sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farrot, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Avec une émission spéciale d'une heure en France en direct de la porte de Versailles à Paris pour vous faire vivre ce congrès des maires, enfin vivre. Nous, on est un petit peu dans une bulle de verre, là, dans notre studio. Hein, Denis, on a reçu des maires, mais on s'est pas vraiment baladé dans les allées.
Vous avez envie de prendre l'air.
Exactement. Mais avant ça, on va accueillir Quentin Lhuissier, qui est un petit peu nos yeux et nos oreilles dans les allées de ce salon, de ce congrès. Bonjour Quentin, bienvenue.
Bonjour à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.
On imagine votre rencontre avec Jean Lassalle ce matin. Je dis pas que vous êtes petit, mais lui, il est quand même très grand.
C'était très drôle parce que j'avais presque besoin d'un marche-pied pour aller lui tendre le micro. En revanche, c'est tellement, dans ce qu'on appelle notre jargon, un bon client, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter pour discuter à la radio. Mmh. Et puis en plus, il aime bien France Bleu parce qu'il l'écoute dans, sa région. Donc c'est plutôt intéressant. C'était vraiment un vrai moment.
Il aime tellement France Bleu que quand il est arrivé au studio de France Bleu, il a embrassé l'attaché de production de l'émission, Gwenaël Coupet, ce qui n'a pas voulu nous dire les liens qu'il avait avec l'ancien élu.
Alors, il y a des maires évidemment, il y a Jean Lassalle, il y en a des plus ou moins connus. C'est comment l'ambiance, Quentin, faut bien dire, c'est pas ouvert au public. Hein,
non,
ce congrès.
C'est entre maires. Alors j'ai vu des pères de maires, par exemple. Voilà, c'est drôle.
C'est compliqué là.
Vous pouvez répéter.
Des pères de maires, c'est deux maires qui sont en train d'échanger sur leur commune. Et on a des maires qui ont des villages, par exemple, de moins de 250 habitants, qui vont échanger sur des problématiques avec des maires qui en ont 7500. Donc c'est intéressant de les voir. Il y a une sorte de synergie aussi dans la prise de décision. Il faut savoir qu'il y a 35 000 maires, que à peu près un peu plus de la moitié ou un peu moins de la moitié ne va pas se représenter en 2020. Donc il y a aussi un turnover qui arrive. Donc des jeunes gens, des gens qui accompagnent aussi à côté. Il n'y a pas que des maires, il y a aussi des gens qui accompagnent ces sortes de délégations qui montent à Paris. Et puis on vient représenter son village. Par exemple, tout à l'heure, j'ai rencontré un maire qui vient de l'île Bouzon, c'est dans le Gers. Il m'a décrit son village qu'il aime tant, avec des pierres, des belles pierres, une petite cité de caractère qu'il a pris plaisir à nous présenter pendant quelques minutes.
Alors je ne sais pas si j'ose raconter ce que j'ai vécu ce matin.
Vous
dans,
faites peur.
Dans le couloir qui montait aux toilettes du congrès. Parce que c'est très très étroit.
C'est étroit.
Vous avez remarqué,
c'est un escalier.
Voilà, deux personnes ne peuvent pas se croiser.
Ah non, non.
Et deux femmes mères disaient, quand je pense qu'on nous ennuie en permanence avec l'accessibilité dans nos mairies, c'est très dur à avaler.
Ils ont pas tort, parce que c'est vrai que ces escaliers pour aller aux toilettes ici, Porte de Versailles, c'est
Est-ce que vous avez remarqué que les gens sont souriants ou plutôt tristes alors, Quentin ?
Moi, je trouve que c'est souriant. C'est-à-dire que quand ils sont sortis de l'auditorium où ils débattent, où ils vont parler de leurs problématiques, qui sont souvent des problématiques j'ai envie de dire différente, parce qu'on parle du trottoir cassé jusqu'au lampadaire, et bien voilà, on échange, mais ça sourit.
Ah, mais vous aussi, vous souriez, et ça fait plaisir.
Merci
beaucoup,
Quentin Lhuissier.
Quentin Lhuissier, d'être venu nous raconter un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu se balader énormément. Merci à vous, Quentin Lhuissier. On poursuit avec donc les maires qui vont être élus en mars prochain, le seront donc pour 6 ans, c'est-à-dire qu'ils seront aux commandes de leur mairie lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Voici Terre de Jeux 2024, un label pour les territoires, avec le président du comité d'organisation. Merci d'être là. Bonjour Tony Estanguet.
Bonjour.
Vous avez un message. Les Jeux de Paris 2024, ce n'est pas qu'à Paris.
Exactement. Depuis le début de cette aventure, on souhaite vraiment que ces Jeux aient un impact et un retentissement sur tous les territoires. Moi, j'ai été sportif de haut niveau. La carte du sport français, ce sont des sportifs qui viennent des quatre coins de la France. Et donc, c'est vrai que c'était important que ce projet puisse associer l'ensemble des territoires et que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, il n'y ait pas que la ville qui organise les compétitions, qui puisse vraiment bénéficier de cet engouement national autour du sport et des Jeux Olympiques.
Et concrètement, qu'est-ce qui se passe donc si on a une commune terre de Jeux?
Alors, si on est une commune terre de jeu, qu'on croit aux valeurs du sport et qu'on a envie de s'associer à cette dynamique, on s'engage avec Paris 2024 à mettre plus de sport dans les écoles, dans les quartiers, à différentes occasions. Dès 2020, l'année prochaine, on a déjà trois grands temps forts sur lesquels on va donner rendez-vous à ces collectivités locales pour qu'elles s'engagent à mettre plus de sport pour le bénéfice des Français.
Et il y a déjà des noms à nous donner, des villes qui ont candidaté et qui sont labellisées?
Alors aujourd'hui, on a un petit peu moins d'un millier déjà de collectivités locales qui ont candidaté.
Vous en donnez que 900 alors.
Et on va pas avoir le temps, 900.
Et on annonce tout à l'heure les 500 premières communes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des communes qui viennent des quatre coins de la France. Toutes les régions sont représentées. Il y a des tout petits villages de 149 habitants et des grandes métropoles, des grandes régions qui seront associées à Paris 2024.
Ah non, Tony Estanguet, c'est pas possible là, en exclusivité pour France Bleu.
La première région, c'était la région des Hauts-de-France, qui a été labellisée Terre de Jeux, mais vous verrez qu'il y a aussi la commune de Belfosse, qui est le plus petit village qui a candidaté jusqu'à maintenant, avec 149 habitants.
Et merci, on voit que vous êtes un sportif parce que vous êtes arrivé en courant. Merci
à vous, Estanguet. Et à demain, Denis.